Sophie Lyon.
Radio X.
Miguel est en... Il est pas en ligne. Il est branché avec nos kits de communication. Il est pas au téléphone. On avait tendance à dire ça. Il est au téléphone. Il est pas au téléphone. Donc, Miguel est là. T'es salué, mon ami. Comment tu vas?
Salut, Jeff. Ça va super bien, toi?
Good. Hey, avant qu'on parle de ton sondage de l'Institut économique de Montréal, qui est extraordinaire, yes, en passant, je veux juste que... Est-ce que tu as eu le temps de regarder les chiffres de l'emploi vendredi? Parce que on a les politiciens qui se vantent d'avoir des super chiffres. Puis quand je les ai vus, quand Pierre Couture me les a donnés, je dis ouais, ben, bravo, bravo. Finalement, en fouillant un peu, ce qu'on voit, c'est que le nombre d'emplois, de gens qui sont disponibles pour travailler n'est pas si bon que ça. Donc, beaucoup de gens à la retraite très, très tôt, que finalement, au niveau du privé, il n'y a pas de job qui se crée dans le privé. C'est tout le gouvernement qui crée énormément de jobs. Donc, derrière ce 4 points quelque chose-là, se cachent des affaires un peu spéciales sur la productivité et aussi pour le futur. Parce que là, à un moment donné, on ne peut pas avoir juste des gens qui travaillent pour la machine, parce que cette machine-là a besoin d'argent pour fonctionner, là.
Ben effectivement, Jeff, puis je pense que ces chiffres-là nous disent exactement ce que tu viens de dire, mais même cette situation-là, c'est pas nouveau. Depuis 2018, là, le gouvernement a créé plus de 13 % d'emplois de plus dans le secteur public, alors que dans le privé, il s'en est pas créé. C'est 0,05 %. Fait qu'on voit que l'État prend de plus en plus de place, alors que le privé est en pénurie de main-d'œuvre. Puis là, toutes les entreprises se disent, où c'est qu'on va aller trouver nos travailleurs si l'État arrête pas d'en enlever du secteur privé? C'est exactement ça qui arrive au Québec. Puis même si je pousse l'analyse un peu plus loin, là, quand on regarde même les chiffres d'investissement, quand on regarde les investissements publics au Québec, ça grandit année après année, alors que les investissements privés, ça diminue. Donc là, il y a vraiment un shift de la vision économique du gouvernement du Québec qui est de faire en sorte que l'État prenne de plus en plus de place. Puis ça, c'est dangereux pour le privé. Puis on part pas d'une belle situation, on part d'une situation où le privé est en pénurie de main-d'œuvre.
Oui. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça, derrière les beaux chiffres se cachent peut-être des affaires un peu plus épeurantes à moyen et à long terme, c'est clair, 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 parce que veut pas. Tous ceux qui ont essayé ça, là, que toute l'économie soit dans les mains du gouvernement, je connais pas beaucoup de succès qui ont réussi à faire ce genre de patente-là, ça n'a pas fonctionné.
Puis on le voyait aussi dans le dernier mini-budget, là, parce que là, on se réjouissait un peu de la baisse des déficits prévus, qu'on faisait 6 milliards à place de 12 milliards de déficit. Mais quand on analyse les chiffres, là, on voit très bien que cette baisse de déficit est due à une hausse des revenus. Donc, plus de transferts fédéraux, plus d'impôts, plus de taxes. Donc, c'est pas une diminution des dépenses. Au contraire, les dépenses continuent d'augmenter. Puis je pense qu'avec le budget qui va arriver en mars prochain, là, le gouvernement du Québec va prendre encore plus en plus de place avec le nationalisme économique. Donc, on est vraiment dans une mentalité de faire en sorte que le secteur public soit de plus en plus important et non le contraire.
Est-ce que je rêve, mais le fait que Trudeau a imprimé des centaines et des centaines de milliards, on s'est quasiment rendu un trillion là, si on fouille un peu. Là, une fois que ça sera fini, on se demande si on n'atteindra pas ça. Mais on a défoncé facilement le 500 milliards d'argent imprimé, ce qui contribue en ce moment à l'augmentation des prix et tout ce que nous vivons. Donc, c'est comme une bête qui se court après la queue en ce moment. Mais la majorité de cet argent-là s'est ramassé dans les provinces les plus confineuses, les plus fermées. Donc, le Québec a ramassé tout près de 40 % de cet argent-là. Donc, le gouvernement est comme devenu riche avec de l'argent qui est arrivé un peu comme par surprise, imprimé par le fédéral, le fait que nous, on a fermé les entreprises, on a fait ci, on a fait ça. Donc, une grande partie de cet argent-là se ramasse chez nous. Puis, à la fin, par les taxes de vente et l'imposition des profits ou encore des particuliers, eh bien, il y a une partie de cet argent-là, oui, qui est retourné au fédéral, mais la grosse partie reste dans les poches du provincial.
Ben effectivement, c'est pour ça que les transferts fédéraux ont augmenté au Québec. Puis c'est pas nouveau, là, le Québec, avec la péréquation, on prend toujours entre 40 et 50 % du montant total de péréquation. Mais là, pendant la pandémie, comme tu le dis, ça a été encore plus gros. Puis cet argent-là est venu notamment de l'augmentation de la masse monétaire. Fait qu'on a imprimé de plus en plus d'argent. Puis ça, c'est dangereux pour l'inflation parce que là, au Québec, là, avec une inflation à 4,7, 4,9 %, En fait, au Canada, parce qu'au Québec, c'est 5,9 %. Ben là, on le voit que c'est une inflation qui va faire mal aux ménages. Puis d'ailleurs, ça va faire surtout mal aux ménages qui sont les plus démunis puis aux retraités. Donc, l'inflation, c'est une taxe déguisée sur les pauvres. Puis il faut vraiment combattre ça, l'inflation. Puis aux États-Unis, c'est la même chose. L'inflation va aussi être dans le plafond. Donc là, c'est avec toutes les dépenses qui sont annoncées, l'augmentation de l'argent qui est imprimé, je pense que ça tombe vraiment pas rond pour le Québec, là.
Allons dans les bonnes nouvelles. Très, très bonnes nouvelles. Mais en même temps, ça ne m'a pas surpris. Ce que vous dites à l'Institut économique de Montréal après votre étude, c'est que quand on explique aux gens qu'est-ce que c'est un système mixte de santé, c'est-à-dire que vous avez une assurance publique qui vous assure de voir un médecin, d'être opéré, d'être soigné sans frais, mais que finalement, ça se peut que ces soins-là vous soient donnés par un système public ou encore par un système privé, comme c'est le cas dans tous les pays du monde, ou presque, eh bien, les Québécois sont très ouverts, même plus que les Canadiens anglais là-dessus.
Bien, les Québécois, je vais te le dire, Jeff, ce sont les plus ouverts à davantage de privé dans le système de santé. Donc, quand on entend certains médias puis certains politiciens qui nous disent « Non, au Québec, on veut vraiment que ça demeure public, on veut pas qu'il y ait accès au privé », bien, ils parlent pour la minorité. Parce que la majorité des Québécois veulent davantage d'entrepreneurs dans notre système de santé. Ça, c'est de un. Puis de deux, l'affaire qu'il faut voir dans ce sondage-là, c'est que la majorité des Québécois se disent qu'ils ne connaissent pas d'autres systèmes de santé dans le monde. Donc, nous, quand on parle de privé, la majorité de ces gens-là associent le privé au système américain, au système des États-Unis, aux méchants capitalistes, où ça coûte beaucoup d'argent qu'il faut sortir pour avoir accès à des soins de santé. Alors que quand on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, puis on s'en va, par exemple, en Suède ou en France, où établissements, ils sont gérés par le privé, mais le financement demeure public. Là, les Québécois disent oui à ça et ce sont les plus ouverts, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le Canada. Donc, c'est vraiment une campagne un peu de marketing et de désinformation de quelques groupes militants dans la population qui disent, si vous voulez plus de privé dans le santé, là, ben, ce que vous dites, c'est que vous voulez un système américain, ce qui est totalement faux.
Et le pire, c'est que ces gens-là, quand ils ont allé aux États-Unis, puisqu'ils, mettons qu'ils ont une assurance voyage et qu'ils ont à voir, il leur arrive un petit quelque chose pendant leur voyage, je sais pas, moi, ils sont allés à Vegas, il arrive quelque chose, ils doivent voir un médecin, ils doivent aller à l'hôpital rapidement. Et quand ils arrivent chez nous, ils n'en reviennent pas. My God, mais quelle sorte de système incroyable qu'on a eu là, des services comme ça se peut pas. J'avais l'impression d'être dans une chambre plus belle que ma chambre d'hôtel au Mandalay Bay. On dirait que leur opinion change bout pour bout. C'est parce que les gens, c'est pas expliqué. C'est au niveau de l'assurance. Donc, la différence, d'ailleurs, elle est simple, c'est que l'assurance ici, les gens jusqu'à l'âge de 65 ans, c'est eux avec leur employeur qui s'en occupent, alors que chez nous, c'est via nos impôts, c'est là la différence. Mais si eux autres ont des choses à régler, parce que souvent, je parle avec des gens, des Américains, et une des choses, c'est qu'ils ont trop de services. Donc, vu que c'est la course à aller chercher le plus d'argent dans les poches des compagnies d'assurance, c'est que souvent, ils vont voir trop de médecins, ils auront trop de tests, ils auront trop de... C'est un peu l'inverse de nous autres. Mais prenons... T'sais, moi, je pense qu'il faut prendre du système américain ce qu'il y a de bon et garder ce que les systèmes européens et le nôtre ont de bon, c'est-à-dire une assurance universelle qui ne mettra pas personne de côté jamais, jamais, jamais. Mais au niveau de la livraison, de la qualité des services, c'est pas gênant pantoute d'aller voir aux États-Unis comment ça marche.
Ben non, parce que, tu sais, on va être clair, il n'y a pas un système de santé dans le monde qui est parfait. Il n'y en a pas un. Que ce soit en Suède, en France, aux États-Unis ou même ici au Québec, il n'y a aucun système parfait.
Mais on sait une chose, on a le pire. On a le pire des pires, on l'a vu là.
Exact. Puis je pense que ça se voit aussi dans les chiffres parce qu'il y a 90 % des Canadiens qui croient que c'est nécessaire d'améliorer la capacité du système de santé. Donc 90 %, il y en a juste 6 qui disent que non, on est correct comme ça, puis le reste ne savent pas. Donc c'est 90 % des gens qui disent il y a un problème, il faut améliorer notre service de santé. Après ça, il y a 64 % des gens qui disent il faut faire plus de place au privé. Donc il y a vraiment un terreau fertile au Québec pour une réforme de fond, puis pas juste une réforme de surface, là, de remplacer des fax par des ordinateurs, mais vraiment une réforme de fond, d'aller dans la qualité des soins, d'aller dans qui donne ces soins, de santé-là. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher au Québec. Puis surtout quand on regarde aussi les chiffres vraiment ici, là, c'est plus de 85 % des gens qui disent que le système est trop bureaucratique. Donc, on le voit, là, les gens sont au courant qu'il y a un problème puis qu'il nous faut une solution et une nouvelle solution. Parce que si on regarde tout ce qui a été fait dans les 10 dernières années, qui a coûté des milliards et des milliards de dollars,
ça n'a rien fait.
Il y a quand même, ben, c'est ça, ça n'a rien fait. Puis la plupart des gens nous disent le système s'est même détérioré ou ça n'a rien changé.
Plus donc, on les gens de l'argent, plus on essaie de rajouter plus de ce qui ne marche pas et moins ça marche. C'est une logique assez facile à comprendre. Mais explique-moi une chose, Miguel. À part Éric Duhaime, qui est un nouveau parti et qui commence à s'installer, il n'y a personne qui a osé s'attaquer à ça. Alors que c'est pas... Écoute, votre sondage est excellent, mais c'est pas le premier sondage de l'histoire dans les 20 dernières années qui nous montre que les Québécois sont ouverts à un système mixte. Mais il y a une fin de non-recevoir. Est-ce que c'est la chienne des syndicats? Quelle est la vraie raison derrière le manque de courage des politiciens de nous donner un système de santé moderne où ce qu'on n'oubliera personne, puis qu'on va pouvoir soigner les gens dans des conditions qui sont 2020, 2030, 2040 et non pas 1956?
Moi, je pense là, que c'est quand tu es ministre de la Santé ou quand tu es un élu, puis tu dis « je veux faire une réforme de fond du système de la santé », tu sais pas par où commencer. Je pense que c'est ça le problème. La machine est rendue tellement grosse, tellement compliquée. Il y a l'organigramme, je sais pas si tu l'as déjà vu, là, du ministère de la Santé,
non,
là.
C'est fou.
Mais c'est pour l'ouvrir c'est sur fou. Un ordi, il faut 4 écrans, là. Il est tellement gros, c'est que les gens savent pas par où commencer pour faire une réforme. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'élus en ce moment aussi qui se disent, là, il va y avoir l'opposition des syndicats, là. Est-ce que la population va penser qu'on va américaniser le système? Est-ce que les médias vont être contre nous? Fait qu'il y a toutes ces craintes-là. Fait que si tu mets ça tout ensemble, je pense que c'est ça qui freine l'innovation dans notre système de santé. Il y a une job d'éducation à faire, mais il y a aussi une grosse job d'audace puis de courage. Puis il nous faut des élus qui disent, qui regardent ça puis qui disent, je vais faire ce que la majorité des Québécois veulent, parce que c'est ça le problème en ce moment. La majorité des Québécois sont pour, mais la majorité des élus sont contre. Donc, ils ne représentent pas le peuple.
Oui. Écoute, puis le pire, c'est que parallèlement, on a, tu sais, nous autres, on parle souvent de Marc Lacroix. Marc a été un pionnier là-dedans.
Ben oui.
Marc fait une job extraordinaire. Il y a eu d'autres modèles qui ont parti avec d'autres modèles d'affaires, en fait. Et ces gens-là donnent un service d'une qualité exceptionnelle. Donc, les intégrer au système actuel, il y a déjà un commencement. C'est déjà fait. Ça existe déjà. La seule différence, c'est que quand quelqu'un va chez Marc Lacroix, mettons, puis que il a pas pu être vu dans le public, ben quand il va chez Marc et ça coûte mettons 200-225 $, ben quand voit la facture au gouvernement, la facture exactement comme ta sœur en Espagne, Jerry, c'est pas bon. Ben
exactement.
Compliqué. C'est fait. Pourtant l'Espagne, on s'entend que
c'est un pays socialiste.
C'est un pays socialiste, un pays très 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 à gauche et en santé sont pas mal plus à droite que nous. C'est quand même un peu spécial. Hey Miguel, ben, content de t'avoir parlé.
C'est l'idée d'avoir des entrepreneurs en santé là, ou plus de secteur privé. C'est pas une idée nécessairement de droite. Là. Comme tu dis, il y a plein
pas
de pays
tout.
Plus à gauche qui font ça. Puis c'est pas une idée là, qui sort d'un modèle capitaliste. C'est vraiment une idée pour rendre la qualité de service meilleure puis une meilleure accessibilité de soins
voilà,
aussi à la
population. On veut que les gens soient soignés. On voit que on veut que les gens aient un médecin rapidement. Si on a un service en médecine spécialisée, on veut que ce soit vu dans un mois maximum. Mais là, c'est un an et demi, des opérations retardées, des traitements retardés. Ça n'a aucun sens. C'est un fiasco total. Et on va le dire, là, je veux dire, avec ce qui est arrivé dans la COVID, on nous a embarrés dans les maisons pour sauver le système de santé. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui veut sauver ce système de santé-là, il faut être un méchant imbécile. Vraiment, vraiment. Miguel Ouellet de l'Institut économique de Montréal. Plaisir de te reparler, mon ami.
Merci,
si jamais on s'en parle pas avant la fin de 2021, c'est sûr qu'on s'en jase en 2022. Merci, Miguel.
Super. Ben, joyeuse fête à tous. Bye.
Yes. En espérant qu'on s'en reparle d'ici Noël, mais le temps passe vite, donc who knows?
Exact.
On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X.
Jeff. We're gonna do this. Radio X.